Vous êtes sur RTL. Pascal Praud sur RTL.
C'est un sondage BVA publié pour RTL. 67% des Français sont donc favorables au maintien du masque à l'extérieur. Et 54% des Français sont encore favorables pour les personnes vaccinées. Donc c'est étonnant quand même. Après une année de pandémie, tu pourrais imaginer que les Français aient envie de quitter ce masque à l'extérieur. Il n'en est rien. Charles, qui est juriste à Lyon.
Bon, bonjour Pascal, à nouveau.
Rebonjour. Non, mais,
juste un petit mot pour vous dire que votre émission est géniale et vous secouez l'info et ça me plaît beaucoup. Merci.
Bah, vous êtes très gentil. Secouons-la ensemble.
Non mais, alors moi je suis étonné. D'abord, qu'on pose ce genre de questions aux Français. Ça n'a pas de sens, c'est pas eux qui décident. Mais à la fin, en fait, ça engendre des décisions qui ne sont que des décisions d'émotion. Il n'y a jamais de science. En fait, quand est-ce que le gouvernement a publié une étude qui indique que ce virus est plus aéroporté, enfin je ne sais pas comment on dit, mais dans l'air, plutôt que manuporté par les mains, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu.
C'est ça qui est intéressant. Moi, ce qui m'intéresse d'autant plus, c'est qu'évidemment les Français n'ont pas un doctorat en sciences.
Mais les informations,
elles passent quand même. C'est-à-dire que tous les jours à ce micro, vous avez entendu des médecins expliquer à l'extérieur, pas de cluster, le risque est infime. A priori, il faut vraiment être dans des conditions très particulières pour attraper la Covid alors qu'on est à l'extérieur, etc. Et bien, malgré cela, c'est ça que je retiens, moi.
Mais moi, ce que je retiens, c'est que on demande l'avis aux Français et ça engendre des décisions idiotes. C'est-à-dire
que c'est la démocratie. Vous êtes.
C'est le principe de la démocratie. C'est l'électoralisme.
Vous dites électoralisme, voilà. C'est vous demandez l'avis aux gens.
Ben oui. Mais l'avis aux gens, malheureusement, il ne pèse rien dans la vérité, parce que la vérité scientifique, c'est la seule qui compte. En fait, c'est pourquoi on met des masques à l'extérieur, parce que ça nous protège nous-mêmes. Non. Ça ne nous protège pas nous-mêmes, puisqu'il faudrait des masques FFP2 ou FFP3. Ben, un masque chirurgical, ça ne fait que protéger les autres.
Alors, ce qui est intéressant, Charles, en même temps que vous parlez, je vois que Anne est arrivée, et je vois la fiche d'Anne arriver, elle est infirmière, et elle n'est pas du tout d'accord avec vous. Donc, ça va être intéressant peut-être d'écouter Anne. Bonjour Anne.
Oui, bonjour Pascal, rebonjour aussi.
Bonjour. Alors expliquez-nous pourquoi vous êtes favorable au port du masque à l'extérieur, je le précise.
Bien, à l'extérieur, c'est vraiment aussi pour se protéger. Alors, effectivement, je rejoins Charles, on ne sait pas si le virus est aéroporté, aérogène, si c'est par les mains, comment c'est vécu. On a quand même des bases et des données scientifiques qui disent que, effectivement, en espace clos, le virus se transmet plus facilement. Mais à l'extérieur, rien ne dit qu'on peut l'attraper ou pas l'attraper. Donc on est dans l'incertitude. Le fait d'être vacciné aujourd'hui n'empêche pas d'attraper le virus, mais ce sera une forme plus, c'est-à-dire moins grave, qui nécessitera peut-être pas une hospitalisation, une réanimation, mais on peut quand même, en ayant été vacciné, attraper ce virus. Donc faut pas l'oublier. Pour finir, en mars 2018, je me trouvais en Thaïlande pendant un mois. Ma collègue thaïlandaise donc portait H24 en présence de personnes le masque, et beaucoup de Thaïlandais, ça m'avait choqué dans les rues, portaient le masque. Que ce soit à Bangkok ou à 400 km de Bangkok, où je me suis trouvée après dans des petites villes où il n'y avait pas d'affluence particulière. Et les gens portaient le masque toute l'année. C'est culturel chez eux.
Est-ce que je peux me permettre? En Asie, on porte le masque essentiellement quand on est malade, pour protéger les autres, pour ne pas avoir de projection. Ou alors pour la pollution dans les villes polluées. Mais en Asie, il n'est pas d'usage de porter un masque pour se protéger soi.
Oui, moi j'avais cette notion de porter le masque par rapport à la pollution. Or, la personne avec qui je travaillais, qui habite là-bas, qui est thaïlandaise, Sanika, m'avait expliqué au contraire qu'il portait aussi le masque pour se protéger des virus les uns des autres. Et la France était un des pays les moins atteints du virus.
Oui, mais Anne, j'entends ce que vous dites, et pour tout dire, ça préfigure peut-être la société de demain. J'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent cette société. Pour tout vous dire, moi je ne suis pas un fan de cette société. Mais je vais vous poser une question directe, Anne. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait que nous portions tous le masque dans les entreprises, voire dans les lieux clos, à partir du 15 octobre, quand les virus respiratoires arrivent, tels la grippe?
Ce serait peut-être mieux, oui.
Voilà, bah, vous avez la réponse, effectivement. Mais donc, il y a une cohérence dans ce que vous dites. Je vous comprends. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme vous. Je ne suis pas, je le répète, un fan de cette société. Mais je vais vous dire quelque chose, Anne. C'est imparable, votre argument. Je pense qu'on va y venir parce que c'est imparable. Mais on le dira après la pub, si vous le voulez permettre. Parce que vous restez avec nous. Je trouve notre début de discussion absolument passionnant.
Oui, moi aussi, je voudrais répondre.
Je pense aux DRH dans les entreprises à qui on va dire des membres de l'entreprise vont venir dire moi je ne veux pas prendre les miasmes ou le virus de monsieur un tel. Mais là encore, c'est imparable. Le DRH va lui dire mais oui, mais vous avez raison. Donc, masque pour tout le monde dans l'entreprise. Je le répète, je ne suis pas fan de cela. Maintenant, c'est peut-être une tendance lourde, comme disent les analystes qui se dessinent. Il est 13h08, je salue Greg Caradoni, on va se faire une petite playlist Eurovision.
Avec plaisir.
Aujourd'hui.
Ça faisait un an qu'on ne l'avait pas fait.
Oui, et alors toutes les chansons qu'on gagnait à l'Eurovision.
Ça va aller vite, non?
Non, il y a beaucoup de Français qui ont gagné avant. France Gall avait gagné, notamment... André Claveau avait gagné, mais France Gall, c'était pas la France.
C'était le Luxembourg.
C'était le Luxembourg. Marie-Myriam a gagné, Frida Bocara a gagné, André Claveau, vous connaissez pas André Claveau, je suis sûr. Eh bien, on écoutera cela. Isabelle Aubray également a gagné. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
On a un formidable débat entre Charles et Anne qui ont deux conceptions opposées du port du masque et peut-être même de la société tout court et de la liberté, pourquoi pas. Mais Laurent Tessier est avec nous, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. C'est le chiffre qui vous fait réagir au 32-10. 67% des Français sont favorables au maintien de l'obligation du port du masque en extérieur. Résultat de notre baromètre BVA pour RTL et Orange. Le professeur Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon à Paris, était l'invité de RTL Midi.
On est dans une période d'incertitude et que devant cette période d'incertitude, il faut une prévention combinée et que vaccin plus masque plus gestes barrières, c'est comme ça qu'on arrivera un peu à avoir un été tranquille. Donc je pense que les 67% des Français l'ont compris, c'est déjà beaucoup. Je fais partie de ceux qui envisagent que la culture du masque vienne, comme c'est le cas en Asie.
La culture du masque, partagez-vous la même prudence? Est-ce plus raisonnable? Eh bien, le garder en extérieur est assez compréhensible pour Axel sur la page Facebook de l'émission. Vu la situation exceptionnel que nous venons de vivre. Prudence, ras-le-bol pour Marie-Yvonne, encore plus sur une plage, avis partagé par Thierry. Soyons vigilants, mais arrêtons un peu, laissez-nous respirer. Comme avant, demande Fred, c'est bon, on a donné.
Alors Anne et Charles, on retrouve ce petit débat. Anne, c'est vous qui aviez la parole. Et je vous interrogeais, je vous demandais, est-ce que pour vous, le masque devrait être dans les lieux clos? Pourquoi pas à partir du 15 octobre, parce que les maladies respiratoires arrivent? Et vous m'avez dit, bah oui. Finalement,
et oui.
Oui,
je le pense. Je
donc,
le pense
cinéma, donc vous pensez qu'il faudrait rentrer au cinéma avec un masque?
Oui, tout à fait.
Ça va être sympa, hein, notre vie. Mais et évidemment, dans l'entreprise, et puis dès qu'on va dans une boutique, on est avec un masque.
Oui, le masque est sur tous les gestes barrières, c'est important. Je vous disais tout à l'heure, entre 2007 et 2009, je me trouvais aux États-Unis. Je suis rentrée des États-Unis, je ne serrais plus la main à personne, parce qu'aux États-Unis, on ne sert pas la main aux gens.
Non, on se prend dans les bras.
Voilà, on fait des hugs, mais pas à tout le monde. Pas à tout le monde. Et on ne fait pas de bise aux États-Unis. On ne s'embrasse pas.
Non, mais à la limite, ça, c'est plus simple à mettre en place, de ne pas se serrer la main. C'est plus simple, si vous voulez, qu'on ne se serre pas la main. Mais non, mais ça, c'est assez simple à mettre en place. Le masque, c'est une contrainte. Et c'est pour ça que votre avis est vraiment intéressant, Anne, parce que je suis persuadé que plein de gens pensent comme vous. Alors, Charles peut vous répondre.
Mais au secours, je vais faire une pointe d'ironie. À ce moment-là, mettons obligatoire les masques pour toutes les manifestations à partir de 2021 ou 2022. Je suis pas un manifestant professionnel du tout, mais ni même amateur. Mais puisqu'il y a beaucoup de monde, rendons obligatoire les masques pour les manifs ou pour toutes les réunions dès lors qu'on est plus de 100 ou plus de 50. Mais au secours, dans quelle société on arrive? C'est juste inconcevable. Le masque, oui. Mais pour protéger les autres de ses propres projections, ou quand on est soi-même malade, le gel hydroalcoolique à l'avenir, oui, parce que ça c'est une formidable barrière contre les microbes et les virus. Mais le masque tout le temps, mais on plaisante.
Anne, répondez.
Écoutez,
si vous le souhaitez.
Non, je réponds.
Vous avez une déformation professionnelle, Anne.
Oui, tout à fait, mais c'est une triste réalité. Après tout, le personnel de santé vit toute l'année avec un masque sur son lieu de travail. Ça a toujours été le cas. Et ils le vivent très bien. Moi, j'ai aucune difficulté à porter mon masque dès que je me trouve dehors et ça me rassure.
Non, mais vous pouvez le porter, mais portez-le.
La majorité des Français aujourd'hui sont rassurés de porter leur masque.
Mais qu'ils le portent très bien. Oui, c'est l'obligation qui m'ennuie. Moi, je ne vous empêche pas de le porter. Que les choses soient claires, si vous souhaitez le porter, vous le portez.
Oui, le problème des Français à travers le monde, ils sont connus pour être des gens qui n'écoutent pas, qui sont très indisciplinés. Donc de toute façon, en France, si on ne met pas des obligations, on ne suit pas. On est toujours dans la transgression.
Anne, quand même, vive les microbes et les virus. Je vous rappelle quand même que l'immunité, elle tient à ça. Elle tient à une harmonie des microbes, à une symbiose avec le corps. Si on se protège de tout le temps à l'avenir, mais dans quelle société on arrive aseptisé ?
Sans être pour autant aseptisé.
Eh ben merci Charles et Anne, c'était le premier débat du jour et il est intéressant, évidemment. Alors Anne est infirmière et effectivement, il y a peut-être un tropisme médical, un tropisme de professionnel. Et comme elle le dit, elle est au contact parfois de gens qui sont malades et forcément elle est influencée, on peut le comprendre. Stéphane est également aide-soignant. Bonjour Stéphane.
Bonjour Pascal.
Vous écoutiez notre petite discussion.
Tout à fait.
Bon, vous êtes un pro-masque à l'extérieur ou un anti-masque ?
Bah, je suis assez partagé, je serais plutôt pour... Mais je suis assez partagé, je suis aide-soignant moi-même, je viens juste de recevoir ma deuxième injection hier et ça fait déjà depuis la première vague que je ne m'occupe plus des gens Covid. Pourquoi ? Parce que j'estime qu'ayant 50 ans, n'ayant pas été vacciné jusqu'à là, pourquoi irais-je prendre des risques pour des gens qui ne veulent pas faire un minimum d'efforts ? Alors même si j'entends le précédent... interlocuteur, le monsieur, je serais aussi comme lui, j'ai des craintes contre la liberté, mais je voudrais rappeler aussi à l'interlocutrice, à l'infirmière, qu'en Thaïlande, c'est une dictature, et que là-bas, quand on met pas quelque chose, comme quand on jette une cigarette, on se fait tout de suite mis une amende, et on se retrouve des fois en prison. Donc, voilà, je suis assez partagé, parce que les Français sont toujours en train de critiquer, moi le premier, hein, fais partie des 65 millions de Français qui sont entraîneurs quand c'est l'équipe de France, qui sont médecins quand c'est la santé. Mais en même temps, voilà, moi je vois des collègues qui ne portent pas le masque, qui sont dans une théorie du complot, et pourquoi j'irais risquer ma vie, moi, en tant que soignant, pour des gens qui ne veulent pas faire un minimum d'efforts ?
Non mais là c'est différent, dans l'univers professionnel, qu'on est que c'est différent quand même. L'univers professionnel, je veux dire, de la santé, que chacun porte le masque dans l'univers professionnel de la santé, il n'y a pas de débat.
Il n'y a pas de débat, apparemment si, puisque je vous dis, Pascal, j'ai des collègues qui sont la partie, hein, pas la majorité forcément, mais dans une théorie du complot, qui sont anti-masques, qui sont anti-vaccins, Donc il y a un moment, pourquoi certains soignants continueraient à soigner d'autres personnes qui ne veulent pas faire un minimum d'efforts ? C'est ce que je me dis à un moment.
Ce qui nous intéresse là, c'est plus largement le port
tout
du masque.
Fait.
Et puis d'abord, pour le Covid,
hein,
moi je l'ai élargi un peu avec les maladies respiratoires, parce que je sens cette tendance se dessiner, Gilles Pialoux le disait d'ailleurs, hein. Je souhaite que la culture du masque devienne en France, sinon la règle, du moins une habitude. Donc je l'avais un peu élargi, mais là on reste sur le masque à l'extérieur pour la Covid. Ben, merci beaucoup Stéphane, il est 13h17, permettez-moi Anne quand même d'avoir une pensée pour les fabricants de rouge à lèvres. Puisque c'est-à-dire qu'avec votre système, ils ferment boutique. Il ferme boutique si
pas
on a tous le masque. On peut l'avoir, effectivement.
On n'empêche pas de se faire plaisir. Moi, je me maquille tous les jours. Je mets du rouge à lèvres quand j'ai envie d'en mettre. Et puis voilà. Et ça ne m'empêche pas de porter mon masque.
Vous avez pris la voiture, là, manifestement.
Quand on est mort, on peut plus mettre de rouge à lèvres.
Vous avez pris la voiture, là, manifestement.
Oui, tout à fait. J'ai pris la voiture.
Vous roulez, là. Mais là, dans la voiture, vous n'avez pas le masque.
Ah non, du tout.
Et chez vous,
toute seule.
Ah oui. Et chez vous le portez parfois au contact des enfants, de la famille ? Ça vous arrive ?
Alors non. Non, je ne le porte pas au contact de mes enfants parce que, bon, j'ai des enfants dans la santé, donc ils sont vaccinés aussi. Les petits-enfants, non, je ne porte pas mon masque.
Eh ben, merci beaucoup, Anne, de ce témoignage. Merci à Stéphane et à Charles. Il est 13h18. Alors, on a dit que Barbara Pravi était... parce que vous allez pouvoir intervenir, bien évidemment, sur Barbara Pravi, qui est favorite, nous dit-on. Attention quand même, parce que la chanson, elle est un peu triste et décalée, ce qui ne fonctionne pas toujours à l'Eurovision. Et puis, c'est vrai qu'il y a un autre argument que j'ai entendu ces dernières heures, c'est que la France n'a pas forcément envie d'avoir à organiser l'Eurovision l'année prochaine. Ça coûte plusieurs dizaines de millions d'euros et paraît-il que ça joue également dans le vote final. Cela dit, la chanson est belle, elle est entêtante. Et je vous rappelle que la dernière fois que nous avons gagné, c'était en 1977 avec Marie Myriam. Patricia Cass a fait l'Eurovision. Elle avait été également largement favorite. Et puis finalement, elle avait terminé 8e. On pourra écouter Natacha Saint-Pierre également, qui a été 4e avec Je n'ai que mon âme. Ça, c'était bien. Et est-ce que vous vous souvenez de Guy Mardel ? Il n'avait pas gagné Guy Mardel, mais en 65, vous allez retrouver cette chanson qui s'appelait « N'avoue jamais ». Vous connaissez Grégory ?
Ah oui, absolument.
« N'avoue jamais, 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 jamais ». C'est une chanson de l'ancien temps, « N'avoue jamais », bien évidemment. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Nous partons pour Toulouse, où Michel nous attend, il est chef d'entreprise. Bonjour.
Oui, bonjour Pascal.
Vous êtes contre, manifestement, le port du masque à l'extérieur.
Alors, effectivement, je suis contre, mais au-delà, Pascal, je trouve que les Français sont un petit peu gouvernés comme des petits chiens-chiens au bout d'une leffe. Alors Kiki, tu as le droit de sortir jusqu'à 19h. Alors Kiki, c'est 21h. Vous voyez, ce week-end, le Stade Toulousain est en finale de la Coupe d'Europe. Eh bien, le préfet a dit aux Toulousains, « Allô Kiki Toulousain, c'est plus 21h comme partout en France, c'est 19h parce que vous risquez d'être sur les terrasses et ne pas faire ce qu'on vous demande. » Je trouve que les Français ont une capacité à accepter ce que je considère comme inacceptable, c'est-à-dire un dictat dans le fonctionnement, digne des plus belles dictatures des pays, de certains pays. C'est une dictature morale que l'on nous impose depuis un certain temps, à travers la peur du virus, à travers un concept et une gestion de l'individu qui est complètement folle. Et effectivement, le sondage qui a été donné du nombre de Français qui demandent, qui acceptent ou qui suggèrent que l'on continue à garder le masque à l'extérieur, c'est complètement fou. On voit des personnes qui ont les masques dans leur voiture. Ils sont seuls dans leur voiture et ils portent le masque.
Mais donc, oui, mais c'est... Tout des dictatures, mais c'est les gens qui veulent ça. C'est oui, de la... Ou alors c'est de la servitude volontaire. Mais comment dire, est-ce que les gouvernements imposent cela à l'opinion ou est-ce que c'est l'opinion qui demande cela et que les gouvernements suivent ?
De Gaulle disait « les Français sont des veaux ». Et effectivement, je trouve que les Français ont une capacité à se laisser dicter, et dans dicter, il y a dictat, une des obligations. C'est tellement bien fait de la part de nos gouvernants.
Oui, mais là, vous n'avez pas entendu ma question.
Si, si, je vais répondre.
Parce que si ça se trouve, c'est les gens qui réclament ça.
Eh bien, c'est bien ce que j'allais vous dire. Ils ont instillé ce fonctionnement dans la tête des Français qui fait que les Français sont vaccinés au masque et le réclament, quoi. C'est, ah, attention, on les a tellement contraints que c'est comment il s'appelle le fameux syndrome quand les gens ont été...
Syndrome de Stockholm.
Le syndrome de Stockholm.
Mais c'est voilà, de la servitude volontaire, pourrait-on dire. Mais puisque vous êtes à Toulouse, et vous avez commencé par ça, c'est très intéressant, il y a interdiction de la retransmission des matchs sur les terrasses et l'espace public, hein, je crois. Oui, il y a fermeture des bars, restaurants dans le centre-ville dès 19h, alors que toute la France est 21h. Voilà. Il y a interdiction, j'ai écouté Jean-Luc Moudin, hein, c'est bien cela, qui est le maire de Toulouse, je l'ai écouté à 6h20 ce matin sur l'antenne d'RTL, interdiction de consommer l'alcool sur la voie publique. Et je crois qu'il a également dit que l'accès central de la place du Capitole et de la place Saint-Pierre à Toulouse est interdit à partir de 17h30, je crois, de mémoire. Bon.
Voilà. Fais pas la fête.
Oui, mais ce qui est drôle, Michel, c'est que ça, c'est à l'intérieur de Toulouse. Mais dans le même temps, M. Moudin disait qu'à l'extérieur de Toulouse, les terrasses seront ouvertes, les bars seront ouverts et tu auras le droit d'aller voir les matchs.
C'est exactement ça.
Non, mais c'est Je trouve ça quand même. Donc les gens vont sortir de Toulouse. C'est-à-dire que tu ne pourras pas être dans le centre-ville, mais tu pourras être à l'extérieur de Toulouse pour regarder le match.
Ça.
C'est exactement. Donc, on
là, j'ai du mal à comprendre, j'ai du mal à suivre la cohérence, si vous me permettez.
Il n'y a rien à comprendre, malheureusement, c'est que c'est une incohérence totale. Et c'est l'incohérence que, dont on parle depuis des mois, dont vous relayez sur les ondes le fonctionnement. Dans une région où il n'y avait pas de Covid, ben, il fallait quand même avoir ses contraintes. Encore le masque dehors, alors que, bon, on sait très bien, ça a été dit, redit, prouvé que. Y a pas un petit nuage de Covid au-dessus de chaque tête des individus qui marchent. Donc c'est, mais j'en reviens à cette globalisation de dire effectivement les Français s'auto-contraignent et acceptent totalement, pour une grosse partie, c'est pour une partie en tout cas, cette gestion à la laisse. J'appelle vraiment ça une gestion à la laisse. On t'interdit ça, on t'autorise. Et pourquoi ? Parce que je pense que notre président actuel, quand il va se représenter, dira « Vous voyez, Français, par mon action, je vous ai sauvé. Réalisez-moi, parce que grâce à moi, je vous ai permis de retrouver des terrasses, je vous ai permis de faire aussi... » Mais quoi de plus naturel que de sortir, de voir des amis, de boire un coup, de vivre naturellement ? Eh bien, la vie naturelle d'avant va devenir comme si c'était quelque chose d'exceptionnel et pour laquelle on devra rendre louange à nos dirigeants qui auront soi-disant réussi à gérer ceci, faire cela. Donc c'est vrai que c'est étonnant et je trouve que les Français, en tout cas ce n'est pas mon cas, mais ont cette faculté d'acceptation qui est complètement lunaire, quoi, qui est vraiment complètement lunaire.
Ben merci Michel, parce que c'était vraiment intéressant de vous écouter. Il y a aussi un aspect assez générationnel là-dedans, quoique d'ailleurs, hein, parce que les jeunes aussi réclament... Parfois le masque à l'extérieur, donc il n'y a pas forcément de fracture entre les plus anciens et les plus vieux. Mais en tout cas, sur la fin de votre phrase, on sentait le plaisir du monde d'hier, c'est-à-dire oui, ce monde de liberté individuelle, disons-le.
Tout à fait. Pascal,
la vie, ce n'est pas que la santé. La vie, c'est aussi de voir des visages. La vie, c'est de oui, c'est autre chose que de ne pas avoir le Covid ou de ne pas avoir la grippe. La vie, la vraie vie. Pascal, bah merci Michel, sujet, en tout cas.
Pascal, sur notre sujet, 30 secondes, s'il vous plaît. Je souhaite, demain, le Stade toulousain joue contre les Rochelais. J'espère que nous allons gagner, mais je sais que le Stade Rochelais a une très, très, très belle équipe. Et vous, les auditeurs qui n'avez peut-être pas l'habitude de regarder du rugby, regardez ce match-là parce que ça va être un grand match de rugby, que le meilleur gagne en espérant que c'est Toulouse, mais nous allons avoir une belle équipe de La Rochelle. Auditeurs, regardez ce match. Vous allez
et
vous
puis regarder. Écoutez RTL, bien évidemment, c'est la finale, voilà. On le rappelle, de...
C'est Stade Toulousain contre La Rochelle à 17h45 demain samedi.
Donc effectivement, les Toulousains auraient pu regarder le match. Ça entrait sous le couvre-feu, si j'ose dire, parce que le match se terminait à 21h, donc c'était terminé.
Voilà.
À ce moment-là, merci beaucoup Michel, merci. 13h27, merci notre petite playlist. Je regarde les Français à l'Eurovision, c'est très intéressant parce qu'il y a eu des chants très très célèbres, hein. Par exemple Alain Barrière avec une jolie chanson qui s'appelait « Elle était si jolie ». Mais j'avais demandé tout à l'heure Guy Mardel.
Oui, bien sûr.
Alors, est-ce que vous avez retrouvé Guy Mardel qui en 1965 a chanté ça ?
N'avoue jamais, jamais. Jamais, 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 n'avoue jamais que tu aimes.
N'avoue. Alors, il n'avait pas gagné, il avait terminé troisième à l'époque avec cette chanson. Et c'est pas mal, troisième. Et entre-temps, il y avait eu, juste avant lui, en 63, il y avait Alain Barrière qui nous a quittés l'année dernière. Elle était si jolie. Superbe chanson,
on l'écoutera après
la pause. Et puis on va finir avec Pascal dans une seconde qui nous parle des masques et après on changera de sujet. Et notamment, on parlera de Youssoupha, le rappeur, et la polémique pour l'hymne de l'équipe de France de football.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Laurent ne va pas parler que des masques.
Non, vous pouvez nous appeler dès maintenant au 3210 sur la chanson officielle de l'équipe de France de football. Écris mon nom en bleu, chanté par le rappeur Youssoupha.
Écris mon nom en bleu, crie mon nom en bleu. Note-le, écris mon nom en bleu.
Une chanson qui plaît à la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, interrogée sur BFM hier.
Youssoufa est un chanteur militant qui dénonce le racisme et qui est pour la diversité. Alors ça tombe bien parce que le sport partage ces valeurs-là. La chanson de Youssoufa met le maillot de l'équipe de France, le drapeau de l'équipe de France, comme un trait d'union entre tous ces joueurs qui participeront à l'Euro.
Quand je pose, note mon nom sur ta liste.
Mais sur la personnalité du chanteur, les critiques du Rassemblement National s'accumule. Écoutez l'une des chansons de Youssoufa avec des propos sur Marine Le Pen.
Comme dans ce rêve où ma semence de nègre font en cloque cette chienne de Marine Le Pen. Je dis le mari m'en peine et pas de farine pour les narines.
Le vice-président du RN, Jordan Bardella, ne comprend pas le choix du chanteur pour l'hymne des Bleus. Il était chez nos confrères d'info.
Moi, ça me choque qu'on choisisse quelqu'un comme ça, si vous voulez, pour représenter la France à l'Euro en matière musicale. Et je pense franchement que dans cette période où on a besoin d'unité, où on a besoin d'apaisement, Benzema avait un jour dit que Didier Deschamps cédait à une partie raciste de la France. Et bien je pense qu'aujourd'hui on a cédé à une partie racaille de la France en choisissant ce type de propos.
Et nous vous attendons dès maintenant au 3210, vous pouvez nous appeler pour réagir à Youssoufa.
On va en parler dans deux secondes, je vous lis quand même les paroles de cette chanson. Écris mon nom en bleu, crie mon nom en bleu, note-le, écris mon nom en bleu, écris mon nom en bleu, crie mon nom en bleu, note-le, écris mon nom en bleu. C'est un peu répétitif, certes. Défendre les lignes et les frères d'armes, et si ça peut le faire, ça peut faire date. Ça vient des campagnes et des quartiers, personne ne va s'écarter, le camp sera gardé, chaque blase est lourd de sens, c'est jour de chance. On en parle dans une seconde. Mais Pascal, bonjour, vous êtes dernier pour conclure notre petit chapitre d'accord. Sur les masques. Donc c'est vous qui allez synthétiser tout ce qui s'est dit.
Allez.
Je vous mets un peu bonjour, la pression.
Pascal. Oh là, oui, attention.
Ce débat sur le masque à l'extérieur. Et je rappelle que 67% des Français sont pour.
Oui. Alors moi je souscris totalement à ce que vous a dit Charles au début de l'émission, enfin des paroles intelligentes. En revanche, je voudrais dire que votre auditrice, l'infirmière qui dit qu'on attrape un virus, on attrape une mouche, on contracte un virus. Enfin, pour moi, les mots ont un sens. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je pense que les gens sont complètement perdus avec ce virus. On les voit. Moi, j'ai l'impression que c'est une puce pour eux qui va leur sauter dessus. Et voilà pourquoi, à mon avis, ça explique pas tout, mais il y a cette peur de ce virus. Et vous le disiez, vous parliez de servitude volontaire. C'est vrai qu'on peut rappeler Étienne de la Boétie, de petites acceptations en compromis et complaisance, la soumission vient à s'imposer à soi, tel un choix volontaire.
Voilà. Oui, donc, mais là, c'est ce qui est là, difficile, quoi. En fait. C'est très difficile d'argumenter, parce que ceux qui sont contre le port du masque, ils argumentent sur la liberté, sur la vie, sur le fait que la santé n'est pas... la vie ne se résume pas à la santé, etc. Mais convenez que lorsque... Anne, tout à l'heure, qui était infirmière, dit le masque partout et tout le temps quand arrive l'automne. C'est difficile si elle vous dit je suis malade, j'ai des comorbidités, j'entre dans l'entreprise, je suis fragile, donc faut me protéger. C'est très difficile à ce moment-là de trouver des arguments. Et là, je ne parle plus du Covid, je parle de la grippe.
Oui, mais quand il y a vraiment une proximité, moi je veux bien admettre que porter un masque ce puisse être utile. Mais encore une fois, se promener dans la rue, le virus, lui, vous savez, il a besoin d'un support, d'une cellule vivante, d'accord ? Ça ne vit pas comme ça. Il lui faut vraiment pour se reproduire, voyez, il lui faut une cellule vivante. D'accord ? Parce qu'il va détourner la machinerie cellulaire pour se répliquer, bon, assurer sa survie. Mais ça ne vit pas dans l'air comme ça pendant des heures, un virus. Il ne faut pas se méprendre, quoi. Encore une fois, il a besoin d'un hôte. Et son hôte, c'est la cellule. La cellule humaine, animale, enfin... voilà, ça aussi, faut l'avoir en tête. C'est pas un insecte, d'accord, qui va se poser sur nous et qui va nous infecter, pour se reproduire encore une fois. Voilà, il infecte la cellule et il l'utilise pour se répliquer. Sinon, il meurt. Voilà.
Et
là,
merci.
Par un temps comme celui-ci, là, par exemple, la défécation aussi. Vous voyez, là, quand il n'y a plus d'humidité dans l'air, pour lui, c'est très mauvais, quoi. Parce qu'il meurt, le virus.
Enfin, bah merci,
bon,
Pascal.
On va pas parler de ça, mais voilà, et je trouve que c'est un peu tout et n'importe quoi. Et moi, ce qui m'affole, c'est cette peur qu'ont les gens de ce virus. On rappelle 0,15% hein, le taux de mortalité. Parce que tout à l'heure, vous aviez aussi un de vos éditeurs infirmiers qui disait « Moi, je veux pas mourir ». 0,15% le taux de mortalité. Vous le dites, hein, mais il faut le répéter.
Et vous l'avez dit. Merci, Pascal, pour cette intervention.
Merci. Merci aussi, des fois, d'évoquer les Stéphanois de 73.
Ah ben justement, Saint-Étienne, hein, vous êtes un Stéphanois, on va parler football.
Oui,
c'était
oui,
la semaine des les vrais verts. Les fameux vrais verts. Bon, merci vraiment beaucoup, Pascal. 13h36.
Bon, merci. Au plaisir.
Au plaisir, effectivement.
Ouais, bonne journée.
On va parler chansons, d'abord avec la chanson de l'hymne du foot, et puis également, parce que vous le savez, c'est l'Eurovision ce week-end. Vous avez peut-être écouté l'excellent Cyprien Sini ce matin, qui viendra, j'espère, nous donner le programme du soir, d'ailleurs. Et la chanson de Barbara Pravi, on l'aime bien, et on fait un petit tour d'horizon des chansons qui ont bercé, parfois, notre enfance, pourquoi pas, dans l'Eurovision. Alors, je parlais de Alain Barrière. Vous savez qui est Alain Barrière, Greg Caradoni?
Bien sûr, mais...
C'est un chanteur parfois qui est oublié. Hélas d'ailleurs, parce qu'il a des très très belles chansons. Il avait chanté ça.
Trop jolie. Et toi, je te connais.
Ça, c'est superbe. L'aimer toute une vie. Tu ne pourras jamais.
Tu ne pourras jamais.
Magnifique Alain Barrière.
Oui, mais
elle est partie. Et oui, elle est partie parce que parfois elle part.
J'ai l'impression qu'on a écouté que des chansons qui étaient antérieures à 1977 jusque-là.
Vous savez que Sacha Guitry disait « J'ai eu deux malheurs dans ma vie. Ma première femme est partie et la deuxième est restée. »
Vous avez un message à faire passer ?
Pas du tout. Mais je trouve que c'est formidable, bien évidemment. La pause et on écoute Youssoufa. C'est un genre différent, c'est du rap. À tout de suite.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
L'hymne officiel de l'équipe de France pour l'Euro fait polémique, particulièrement son interprète Youssoufa, qui dérange le Rassemblement National. C'est un rappeur engagé, il s'est souvent prononcé contre Marine Le Pen. Il est considéré comme l'un des meilleurs rappeurs en France. Il est soutenu par la ministre des Sports. C'est dans une chanson sortie en 2006 qu'il s'en prenait au Front National et notamment à Marine Le Pen. Je vous dirai peut-être tout à l'heure les paroles, même si elles sont crues et pour tout dire insultantes. Mais je voudrais d'abord qu'on écoute Yann, qui est prof de tennis. Bonjour, et qui habite les Sables d'Olonne. Bonjour.
Bonjour, Pascal.
Est-ce que c'est un bon choix, Youssoufa ?
Oui, c'est un très bon choix. C'est un très bon choix. C'est un rappeur iconique, donc qui rappe depuis très très longtemps. Moi, j'ai 43 ans, j'écoute du rap depuis plus de 30 ans. Et Youssoufa, moi, ça me fait partie de ma deuxième période où il fait partie des rappeurs que je suis, parce que il a des textes engagés, c'est un militant, il fait du rap, donc c'est un art qui délivre des messages forts et qui rassemble les jeunes. Et de 0 à 50 ans, voire plus que ça. Donc c'est un très bon choix. Après, bon, j'ai écouté sa chanson. C'est vrai que c'est
qui
pas
ne pose
la meilleure.
Pas problème d'ailleurs la chanson pour l'équipe de France. C'est pas ça qui pose problème. Hein. C'est d'autres chansons et d'autres paroles.
Elle pose pas du tout problème, mais
sa personnalité pose problème pour le Rassemblement National en tout cas.
Voilà, mais dès qu'on parle de rap, de toute façon, on se réfère au passé, mais ça n'a pas empêché, par exemple, des gens du rap d'être reconnus, d'être glorifiés. Par exemple, je pense à des NTM, quand ils critiquent la police. Je pense à des Diams qui a écrit « J'emmerde le Front National ».
Ce qui n'est pas la même chose encore que s'attaquer personnellement à quelqu'un. Vous connaissez la chanson « Éternel recommencement » de Youssoufa ?
Oui, un petit peu, ouais.
Alors voilà exactement la phrase qui pose problème, si j'ose dire. Je mélange mes fantasmes et mes peines comme dans ce rêve où ma semence de nègre fout en cloque Marine Le Pen. Donc en clair, il est en train de dire qu'il viole quand même Marine Le Pen, hein. C'est ça que ça veut dire.
Ouais, mais est-ce que la France n'a pas violé aussi les gens issus de l'immigration ou les gens issus des colonies françaises? Voilà, c'est la liberté d'expression. Moi, je pense que le rap, c'est un art engagé.
Non, mais personne ne conteste qu'il soit un art engagé. Simplement, c'est un chanteur qui représente l'équipe de France. Vous voyez, il y a différents niveaux de discussion. Personne ne remet en cause l'existence de Youssoupha. C'est un rappeur, il a du talent manifestement, il a un public, etc. Ah ouais. Moi, je vous pose la question tout simplement, est-ce que celui qui doit représenter l'équipe de France, en l'occurrence de football, donc toute la nation, cette personnalité, c'est ce qu'a dit le Rassemblement National, cette phrase-là, alors il avait écrit également sur Éric Zemmour, il a écrit sur Éric Zemmour, c'était en 2009. Éric Zemmour avait d'ailleurs porté plainte contre Youssoupha après la diffusion d'une chanson dans laquelle le rappeur disait vouloir mettre un billet sur la tête de celui qui fera faire ce con, ce con d'Éric Zemmour. En première instance, en 2011, le tribunal correctionnel de Paris avait donné raison à Éric Zemmour, condamnant le rappeur pour injure publique à une amende de 800 € avec sursis. Et finalement, la cour d'appel avait débouté le polémiste en 2012.
Ouais, bah écoutez, moi, Éric Zemmour, je le porte pas forcément dans mon cœur. Je trouve que c'est même une personne qui aurait dû être virée de l'audience publique parce que il fait du mal. Il véhicule aussi des messages militants.
Donc ça justifie qu'on écrive, qu'on cherche quelqu'un pour lui mettre un billet sur la tête de celui qui fera taire ce con d'Éric Zemmour. Ce qui veut dire, en fait, c'est un contrat qu'il demande en chanson, bien sûr. Hein. C'est métaphorique, c'est peut-être un artiste,
voilà,
etc.
C'est aussi de l'art.
C'est de l'art.
Il faut pas le voir sous sa forme.
Ça m'avait échappé pour tout vous dire que c'était de l'art, mais c'est possible.
Ben oui, c'est de l'art, bien sûr. Et ils ont tous une forme d'expression. Quand on écoute des NTM et des Diams, on les reconnaît. Mais on a écouté aussi Renaud avec Hexagone. Vous n'allez pas me dire que c'est pas très correct envers la France.
Ben merci Yann, en tout cas de ce témoignage, et c'est important.
Je voulais vous dire aussi Patrick Sébastien, tout ça, vous avez écouté la musique de Patrick Sébastien, c'est pas terrible non plus. Alors là, la musique de Youssoupha, moi je trouve que ça ressemble un peu à l'hymne national. Ça se rapproche de l'hymne national, même si culturellement...
C'est une comparaison osée, ça ne m'avait pas plus frappé que la chanson de Youssoupha ressemblait à l'hymne national.
Ah ben écoutez, quand vous écoutez la chanson de Youssoupha, vous avez envie d'appartenir à la France, hein. Vous êtes en bleu.
Eh ben on l'écoute en tout cas et...
Mais écoutez d'autres... regardez toute sa biographie, sa discographie, écoutez des musiques comme Espérance de vie, comme Entourage, comme Mon Roi. Il a fait plein de chansons qui sont hyper bien et qui sont bien écrites, qui en avaient plus fines que d'autres. Il y en a des plus poétiques que d'autres, mais c'est quelqu'un qui véhicule l'amour, qui véhicule le bonheur plutôt que la rue, l'argent, la drogue et tous les clichés qu'on peut amener au rap et à tout ce qui l'entoure et à Karim Benzema et qui a une sale image alors qu'il s'est toujours bien comporté dans les clubs. Enfin, on associe vraiment la mauvaise image à cet art et je trouve ça dommage, moi. Voilà.
Ben merci en tout cas, vraiment, merci beaucoup Yann de ce témoignage. Et puis on va être avec Catherine et Mohamed ensuite, qui ont peut-être un avis différent. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro
et Laurent Tessier.
Dans quelques minutes, nous parlerons de cette question qui revient chaque année. La France peut-elle gagner l'Eurovision? Avec cette chanson de Barbara Pravi pour Mathieu sur la page Facebook de l'émission. Comme tous les ans, on a notre chance et on finit dans les profondeurs du classement. Elle a une belle voix, mais le style est vieillot. Je me demande si la France cherche vraiment à gagner, lance Thierry. Vu le coût de l'organisation, mon pronostic, elle sera entre la 15e et la 20e place. Et de toute façon, pour GB, nous ne faisons pas le poids face au pays de l'Est. Alors, Barbara Pravi peut-elle succéder à Marie Myriam? La dernière victoire française remonte à 1977, l'oiseau et l'enfant. Tellement beau. Allez, on peut y croire.
C'est vrai,
au moins,
d'ailleurs.
Au top 10 pour demain soir en 2016. Pascal.
Ah non, mais là, c'est pas le top 10. Là, on y va pour gagner. Attendez, si vous êtes quatrième. Mais... Et d'ailleurs, je le disais à Christophe Paco tout à l'heure, les gens vont nous reprocher d'avoir vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ça fait deux mois qu'on dit qu'elle va gagner quand même.
Moi, je vous parle du top 10. Hein.
Oui, je suis d'accord avec vous.
Et rappelez-vous, Pascal, en 2016, Amir avait fini 6e avec J'ai cherché. Et 1993, Patrick Fiori atteint la 4e place avec Mama Corsica. Mama Corsica. Allez, on y croit.
Vous avez dit quelque chose de juste. Le pacte récurrent entre les pays du nord de l'Europe qui se donnent chacun leur vote, c'est un obstacle pour Barbara Pravi.
Amis espagnols, portugais, votez pour nous, quoi.
Catherine est là. Bonjour, Catherine.
Bonjour.
Et nous sommes sur le débat de Youssoufa, l'hymne officiel de l'équipe de France. D'abord, est-ce qu'il vous plaît cet hymne ?
Non, pas du tout. Déjà, il n'est pas entraînant, déjà. Et puis, c'est toute la polémique qu'il y a autour qui fait qu'il n'est plus possible de se rassembler autour de cet hymne. Moi, je trouve vraiment qu'on touche le fond avec ce gouvernement.
Là, ce n'est pas le gouvernement. Quel est le rapport ? C'est la Fédération française de football ?
Oui. Le gouvernement a revendiqué ce matin le choix de se... a validé le choix de se...
C'est vrai. Vous avez raison que Madame le ministre des Sports a trouvé que c'était bien.
Ce que je voulais dire, c'est que j'ai très peur en ce moment et je suis très en colère. J'ai très peur parce qu'on honore les banlieues dans lesquelles on constate l'effondrement de notre culture. Et on s'aplatit devant les banlieues car on sait très bien qu'une seule étincelle et ça part. Et ça a été, vous avez parlé de Karim Benzema là, cette semaine, et c'est le même phénomène. C'est s'aplatir devant la volonté des banlieues. Le deuxième point, je pense que le gouvernement crée et organise et revendique ce type de polémique. Il en joue. C'est ce que disait
un
auditeur qui est passé quelque temps avant moi.
Quel est son intérêt ?
Eh bien justement, je me demande, est-ce que c'est intentionnel, diviser pour mieux régner ? Et comme le monsieur disait tout à l'heure, est-ce que c'est pour arriver en sauveur et dire « Oh ben, ça y est, vous voyez, j'ai rétabli le calme, j'ai su faire, etc. » Le choix de ce monsieur, j'ai écouté les textes de monsieur Youssoufa. Tous les textes ne sont pas condamnables. Hein. Il y a de, comme disait la personne qui était juste avant, il y a de très beaux textes qui sont très mal écrits parce que ça n'est pas ma culture, on va dire. Mais je trouve qu'il y a de très beaux textes, effectivement, Espérance, Mon Roi. Ils expriment des sujets de banlieue et des malaises de banlieue et on ne peut pas gommer ça d'un coup de gomme comme ça si facilement. Ceci dit. Les textes qu'il a écrits et qui sont injurieux et inacceptables, le gouvernement aurait quand même dû s'apercevoir de ça. Ou alors le gouvernement est incompétent et il n'a pas bien cherché. Ou alors le gouvernement est provocateur.
C'est la Fédération française de football hein, qui a piloté cela. Mais là où vous avez ce que vous dites est intéressant, c'est que je ne sais pas. Si Noël Le Graët ou le directeur du marketing, je ne sais pas comment ça s'est mis en place, était au courant de la personnalité de Youssoufa et des chansons qui pouvaient poser problème, parce que c'est vrai que c'est un chanteur militant, et je ne lui reproche pas, hein, mais c'est un chanteur quand même militant, et ça, personne ne conteste qu'il ne le soit. Il n'était pas vraiment au courant, si au contraire, ils ont pris la décision de lui confier cette chanson avec cette connaissance de cause. Donc je n'ai pas la réponse à cela. Peut-être que Noël Le Graët sera interrogé d'ailleurs ces prochains jours. Déjà, Vous l'avez dit, la ministre des Sports est montée au créneau pour dire que c'était une bonne chose qu'il soit choisi. C'est intéressant d'ailleurs sa réponse, parce qu'elle a dit également « Oh ben Marine Le Pen, vous savez, elle véhicule des thèses qui sont un petit peu racistes, donc bien sûr la chanson est dure, hein, la chanson de Youssoupha est même injurieuse, mais au fond, comme elle-même véhicule des thèses ou des idées racistes, ça peut se comprendre. » Je résume un peu la parole de madame la ministre des Sports.
C'est ça. Mais quand même, même en dehors de ces idées-là, est-ce qu'il faut choisir des textes de rap qui sont pauvres ? Ils sont pauvres au niveau du vocabulaire, ils sont pauvres au niveau des associations de mots, c'est très pauvre.
Ah, ça, c'est votre avis, parce que d'autres trouvent qu'au contraire, c'est de la poésie d'aujourd'hui, que c'est formidable, que c'est un mode d'expression vraiment intéressé. Et là, on est sur la subjectivité, comme toujours.
Non, pas là.
Vous parlez des paroles, par exemple, de l'hymne ou en général de l'œuvre de Youssoupha ?
Je parle de l'hymne, non, dans ce qu'il est. Alors, l'hymne est très pauvre. Il y a même des mots qui me dérangent. Des frères d'armes, ça me dérange. Par contre, dans les autres chansons, il y a, dans les autres textes, je ne suis pas capable de juger de la musique, mais les textes, il y a des textes intéressants, mais le vocabulaire est quand même assez pauvre et assez agressif quand même.
Mais bon, c'est un chanteur militant, mais ça s'entend.
Oui, ça...
On me fait la guerre alors que j'arrive en paix. Vous voyez, je ne veux pas qu'on m'empêche d'interpréter ou prêter ma voix à tous ceux qui sont prêts à tout péter, tout prêts du bonheur. J'ai tant de mal à le saisir, etc. Moi, je ne lui reproche pas, ça. C'est un chanteur militant.
Il y a des textes que j'aime bien. Mais ce que je voulais dire, c'est que si on a choisi un texte de rap, c'est exprès pour correspondre aux jeunes. On peut se demander à quels jeunes. Si ce sont, comme je le pense, les jeunes de banlieue qui sont touchés par ces textes-là, moi, je dis, comment les jeunes pourraient-ils comprendre autre chose que ces textes-là, vu le niveau de l'école. Donc on est obligé de leur donner du rap, qui pour moi a un vocabulaire trop simple. Des images suggérées trop simples.
Bah merci Catherine de ce témoignage, mais c'est vrai que y a le rap, pour le coup, c'est pas l'apanage de la banlieue. C'est aussi une musique qui est appréciée, aimée par un grand nombre de personnes, d'ailleurs pas forcément jeunes, en tout cas de moins en moins jeunes, parce que le rap, ça a maintenant 25-30 ans. Donc NTM, par exemple, c'est des gens de 50 ans qui écoutent ça. Alors Mohamed est là aussi. Bonjour Mohamed, vous êtes enseignant à Nantes.
Oui, bonjour.
Vous vouliez donner votre avis. Je ne sais pas ce que vous avez pensé des propos de Catherine.
Oui. Enfin, j'inviterai Catherine mais aussi les personnes qui ont une mauvaise image de la banlieue d'ouvrir un peu leur cœur, d'arrêter de mettre la banlieue au banc de la société. Enfin, c'est ce que fait le Rassemblement National, qui décidément ne porte vraiment pas son nom. Je trouve qu'au contraire, en fait, le choix de cette chanson-là et de cet auteur-là, qui quand même, en termes d'auteur rap, est quand même un tout petit peu au-dessus de la moyenne du point de vue de l'intelligence de ses propos en général. Enfin, je suis pas fan de rap spécialement, hein, mais je trouve que c'est plutôt quelqu'un qui est assez intelligent dans ses propos. Je trouve que c'est une très très belle occasion pour rassembler en réalité le pays et d'arrêter de taper sur la banlieue, et que ce choix un peu assez stratégique, peut-être de la Fédération Nationale ou de je ne sais qui, mais je trouve que c'est très très intéressant, parce qu'en fait, j'ai écouté tout à l'heure la chanson avec mes écouteurs et je me suis dit que tiens, des jeunes pourraient très bien chanter cette chanson-là et se retrouver dans l'équipe nationale. Et que en soi, c'est pas un choix problématique. Après, j'entends hein, de dire qu'effectivement, il a donné des propos en 2006. Enfin, c'est quand même, on est 15 ans après, à propos de Marine Le Pen. Je rappelle juste que Marion Maréchal Le Pen en 2015, avait dit qu'elle adorait Youssoupha. Enfin, je pense que les propos sur sa sœur ne l'ont pas spécialement choqué.
C'est sa tante, hein, c'est pas ça.
Sa tante, oui, pardon. Mmh. Et quand j'entends le fait que Éric Zemmour a déposé plainte et que cette plainte a été déboutée, je rappelle juste qu'il a dit je mets effectivement un billet sur la tête de celui qui fera taire Éric Zemmour. Alors, moi aussi, j'aimerais bien que les gens fassent taire Éric Zemmour, pas effectivement par des actions brutales, mais par des propos. À chaque fois qu'Éric Zemmour est face à des gens qui...
Mohamed, on marque une pause, parce que c'est l'heure du flash. Pardonnez-moi de vous interrompre, c'est pas agréable, mais je vous redonne la parole tout de suite à 14h. Yann Boucherie dans une seconde.
J'ai trouvé une version, Pascal, de écrit mon nom en bleu, un peu particulière, écoutez.
Écris mon nom en bleu, note-le. Je sais pas si ça va plaire à Youssoupha. Hein.
En tout cas, vous avez un talent incroyable.
Oui, vous le direz à Youssoupha. Yann Bouchery, à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Il est 14h. On va poursuivre la discussion avec Mohamed sur le chanteur Youssoupha dans une seconde, mais le rappel des titres avec Yann Bouchery.
Bonjour à tous. La trêve n'aura même pas duré 12 heures. De nouveaux heurts entre Palestiniens et police israélienne ont eu lieu sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Les affrontements ont débuté après la grande prière musulmane du vendredi, à laquelle ont participé une foule de Palestiniens. Des projectiles ont été lancés en direction des forces de sécurité israéliennes qui parlent d'émeutes. L'Espagne laissera entrer toute personne vaccinée du monde entier à partir du 7 juin. Déclaration du Premier ministre Pedro Sanchez, alors qu'un pass sanitaire européen est sur les rails. Les 27 sont parvenus à un accord. Ce certificat devrait entrer en vigueur le 1er juillet. Il sera nécessaire donc pour voyager cet été dans l'Union. En France, l'idée même d'un pass sanitaire inquiète la défenseure des droits. Dans un avis adressé au Parlement, elle rappelle que plusieurs dispositions figurant dans le texte adopté par l'Assemblée nationale sont susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés, à l'égalité de tous devant la loi et à l'intérêt supérieur de l'enfant. Elle pointe aussi la durée de validité d'un tel pass ou les obligations trop floues imposées aux professionnels et aux bénévoles qui œuvrent dans des lieux et établissements qui accueillent du public. La mise en garde des patrons de bars et de restaurants à leurs adhérents. Respecter les protocoles sanitaires imposant notamment une jauge à 50% est une nécessité absolue, sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'à la fermeture, rappellent les principales organisations patronales de l'hôtellerie-restauration. Un avertissement afin d'éviter les débordements constatés sur certaines terrasses depuis avant-hier soir. À l'image de ce qui existe pour les forces de l'ordre ou les militaires, un statut de mort pour le service de la République sera créé pour les agents publics décédés dans des circonstances exceptionnelles, notamment les soignants pendant cette pandémie de Covid. L'objectif est de permettre à leurs fils et leurs filles de devenir des pupilles de la République. Solidarité renforcée pour les plus démunis. Les 43 000 places d'hébergement créées pour accueillir les sans-abri depuis le début de la pandémie resteront ouvertes pendant 10 mois supplémentaires jusqu'à fin mars 2022. Il n'y aura pas d'expulsion cette année à l'issue de la trêve hivernale repoussée au 1er juin. Les courses, elles ont lieu en fin d'après-midi à Vincennes. Les pronostics de Dominique Cordier, le 3, le 2, le 12, le 8, le 13, le 10, le 5 et la dernière minute, le numéro 13. La météo, de la pluie qui va s'étendre de la Nouvelle-Aquitaine au Massif central et à l'Alsace avec même de la neige dans les Alpes. Au nord, temps agité, averse, quelques orages et du vent. Temps instable en Méditerranée. Les températures cet après-midi de 13 à Limoges à 23. À Perpignan, 14h03. Les auditeurs, le retour, Pascal.
Merci Yann Bouchery.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Écris mon nom en bleu. Note-le, écris mon nom en bleu.
C'est l'hymne officiel de l'équipe de France de football pour l'Euro qui va commencer le 15 juin avec un France-Allemagne. Cet hymne pose problème parce que Youssoupha, le chanteur, avait insulté notamment Marine Le Pen dans une chanson et puis Éric Zemmour. Donc le Rassemblement National est monté au créneau. Seul d'ailleurs dans le monde politique, me semble-t-il. Mohamed est avec nous, qui est enseignant à Nantes, et on conclut avec vous ce chapitre, puisque vous êtes un fan de ce rappeur et vous pensez que cette culture-là a toute sa place, et lui a toute sa place, pour être l'hymne officiel de l'équipe de France.
Oui, en fait, je suis fan des initiatives qui tentent à rassembler la France et à ne pas la diviser en réalité. Et je trouve que c'est quand même les jeunes de banlieue que je vous foute le plus, c'est quand même eux qui sont souvent mis sur le banc de la société, notamment tout ce qui se passe depuis quelques temps. Et je trouve que choisir quelqu'un qui a des chansons et des textes qui s'adressent à ces gens-là, en fait, je trouve que c'est plutôt intéressant. À chaque fois qu'il y a une personnalité qui apparaît comme ça, ça a été le cas déjà à l'époque de The Voice, quand il y a une fille voilée qui est apparue, on est parti chercher des tweets anciens ou des textes anciens quand elle était adolescente. Là, on vient chercher des textes qui ont 15 ans pour faire ressortir des choses. Enfin, je trouve que les personnes du Rassemblement National qui tentent à chaque fois de créer le fossé, d'éviter que ce fossé se remplisse et de créer des liens avec la banlieue, je trouve que c'est pas bien. Quoi.
Je vous rappelle quand même, pardonnez-moi de le dire, parce que mon rôle, c'est pas de contrer ce que vous dites. Je vous rappelle quand même que Youssoufa a dit de Marine Le Pen, je mélange mes fantasmes et mes peines comme dans ce rêve où ma semence de nègre fout en cloque Marine Le Pen. Pardonnez-moi de le dire comme ça. C'est juste, il écrit qu'il viole Marine Le Pen.
Non, non, il dit qu'il est dans un rêve. Enfin, on ne va pas rentrer dans l'analyse littéraire.
Oui, non, mais c'est, ça peut être interprété comme je le dis, en tout cas.
Ça peut être interprété. Il faut plutôt chercher à ne pas l'interpréter comme ça et le resituer dans un contexte de chansons et de textes littéraires. Quand il parle de Zemmour, par exemple, quand il dit « je mets un billet pour les gens qui font taire Zemmour », moi, je suis content quand des gens qui s'y connaissent en économie, en géopolitique, en social, en écologie, font taire Éric Zemmour par des arguments. Je suis assez content, en réalité, parce que c'est une personne qui tente à diviser la société. Donc,
oui, mais bon, on ne va pas rentrer, vous voyez, dans cette discussion de qui divise, qui divise pas, etc. Parce que je crois que ce n'est pas le sujet. Ce qui est intéressant, c'est simplement votre avis, en l'occurrence, et vous avez pu l'exprimer, je pense, et vous êtes un fan de Youssoufa et vous trouvez très bien qu'il représente la France et pour les arguments que vous avez dit. Et je pense que là encore, beaucoup d'auditeurs peut-être se sont retrouvés dans ce que vous dites et puis d'autres au contraire ont pensé ou n'ont pas partagé ce que vous disiez.
Oui, si vous voulez, je vois plus le bien que ça donne en choisissant ce chanteur. Moi, je suis pas fan, hein, en fait. J'écoute rarement Youssoufa. Je l'ai même presque jamais écouté. J'ai entendu deux ou trois interviews. Puis depuis que hier on a parlé de ça, j'ai essayé d'écouter ses chansons par curiosité. J'ai analysé un peu et je trouve que il est plutôt d'une certaine intelligence et au-dessus de la moyenne et qu'il est digne représentant des banlieues éventuellement. Donc je trouve que les bienfaits de ce choix est plus intéressant que les méfaits, quoi.
Merci beaucoup. Il est 14h06. Traditionnellement, le vendredi, d'abord, on essaye d'être plus léger. On va l'être avec l'Eurovision. Dans quelques instants, Laurent Marcy qui est venu près de nous, il a peut-être des informations à nous donner sur l'Eurovision.
Non, c'était pour écouter.
Ah, bah vous êtes venu, c'est gentil d'être venu dans le studio pour écouter, ça me fait plaisir. Et on attend également l'ami Cyprien Sini, je ne sais pas s'il est déjà dans la maison, mais c'est l'heure à laquelle il vient généralement, parce que ce soir, on défait le monde.
De 19h15 à 20h, absolument. Bon. Il passera à nous donner le programme dans quelques instants.
Dites-nous les petites chansons de l'Eurovision, parce qu'on se balade. Vous savez, la première année de l'Eurovision, c'est en 1956. La France participe depuis 1956 au concours de l'Eurovision. Elle fut absente deux fois en 1974. Vous savez pourquoi elle était absente en 1974 ? Deuil national suite à la mort de Georges Pompidou.
Et la deuxième fois, c'était quand ?
Eh bien, en 98, parce que elle n'était pas là. En 98, elle était... je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Elle n'était pas là en 98. Ah non, pardon, c'est en 82, je dis une bêtise. Elle a été en 74 et 82. Elle n'a pas été là.
Et en 2020, du coup. Mais alors, à cause du Covid, bien sûr.
Oui, ça c'est autre chose. Et puis, on a écouté, alors, Gérard Lenormand a chanté, Frida Bocara a gagné en 69, un jour, un enfant. On l'écoutera tout à l'heure. Et puis, on va écouter Cyprien.
On peut écouter Madame Monsieur aussi, c'est un peu plus
alors,
récent.
Alors, écoutez Madame Monsieur. Merci. Cyprien Sini est arrivé. Venez nous voir, Cyprien. On va parler avec les auditeurs. Hein ? Asseyez-vous.
Oui, chef.
La pause et on revient.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Voilà qui je suis.
Moi, j'aime bien cette chanson. Alors, on a un consultant Eurovision que les auditeurs d'RTL connaissent bien, parce qu'il n'est pas venu que pour écouter, bien évidemment, Laurent Marcy, qui connaît toute l'Eurovision par cœur. Rebonjour, Laurent. On a vraiment des chances cette fois-ci.
Comme à chaque fois.
Bon, d'accord. Et Cyprien Sini, qui a fait sa chronique ce matin, nous dira le programme de ce soir. Mais en attendant, évidemment, c'est Benoît qui est avec nous. Benoît, il est secrétaire des Eurofans de France. Bonjour, Benoît.
Bonjour Pascal, bonjour Laurent.
Vous êtes déjà à Rotterdam ?
Je suis déjà à Rotterdam, je viens de sortir de la salle où il y avait la grève qui répétait.
Bon, c'est votre quantième participation à l'Eurovision, si j'ose dire.
Alors, c'est mon dixième Eurovision sur place depuis Düsseldorf. Il m'a manqué que le 2020 qui a été annulé. Et deux juniors aussi au compteur, hein, en Biélorussie et en Pologne.
Bon, ce matin, Cyprien Sini s'amusait parce qu'à chaque fois, on dit qu'on est favori. Puis à chaque fois qu'on perd, donc ça devient une antienne. Est-ce que cette fois, on est plus favori que les autres fois ?
cette année, mais on a la classe, attendez, on a Barbara Pravi-Turfain qui nous chante une superbe chanson qui s'appelle Voilà, c'est je vais dire du Piaf moderne. On est super fiers en tout cas d'avoir cette chanson qui va défendre les couleurs de la France. Il y a d'autres concurrents qui méritent également, n'oublions pas la Suisse qui va chanter en français, les Italiens qui sont en embuscade, Malte qui est pas très loin, mais je pense que cette année, allez, vous allez me dire, c'est un marronnier, oui, chaque année, oui, mais cette année j'y crois beaucoup plus que d'habitude.
Benoît, je vais me faire l'avocat du diable et vous allez me dire si ces arguments qui sont développés contre la victoire de Barbara Pravi sont valables. Chanson trop triste et décalée par rapport à ce qui fonctionne habituellement à l'Eurovision. Vrai ou faux?
Je vais faire une réponse de Normand, vous allez me dire. La chanson, à la première écoute, elle est comme elle est, mais on découvre ensuite la puissance. Et des artistes dimanche sur le Turquoise Carpet nous disaient « Even if you don't understand French, there is emotion, and she sings. » C'est sa propre voix. Et ça,
mais vous n'avez pas vraiment répondu. Laurent Marsic, chanson trop triste et décalée. C'est vrai, ça, que c'est souvent des chansons joyeuses qui sont récompensées?
Non, c'est pas vrai. Salvador Sobral, qui avait remporté l'Eurovision pour le Portugal, avait une chanson extrêmement triste. En plus, il est en train de mourir.
Bon, donc ça, c'est bien de dire. On balaye cet argument. Deuxième argument, le pacte récurrent entre les pays du nord de l'Europe qui se donnent chacun leur vote. Benoît, vrai ou faux?
Ça dépend des années. Écoutez, après, on ne peut pas empêcher la Belgique de voter pour la France de voter pour la Belgique, les Norvégiens de voter pour la Suède et inversement. Quand la chanson est bonne, la chanson est bonne.
Donc, ce n'est pas récurrent?
Non.
D'accord, mais deuxième argument balayé.
C'est vrai, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des blocs à l'Eurovision. Ça, c'est totalement vrai. Mmh. Mais dans ces cas-là, comment expliquer, par exemple, que les Pays-Bas aient gagné? Comment expliquer que le Portugal ait gagné? Comment expliquer que l'Allemagne ait gagné?
Deuxième argument balayé, c'est parfait. Troisième argument, la non-envie de la France d'avoir à organiser l'Eurovision l'année prochaine. Ça coûte plusieurs dizaines de millions d'euros.
Oui,
vrai ou faux?
Je vais vous faire une réponse à la Stéphane Bern. On a de l'argent pour organiser les Jeux Olympiques Paris 2024, pour organiser une Coupe du Monde de foot, une Coupe de rugby. Eh ben, je vais mettre les Français au courant. On va déjà organiser l'Eurovision Junior le 19 décembre à la scène musicale, donc à Paris. Et si on gagne ce soir, et si on gagne demain soir, on est prié d'organiser l'Eurovision 2022.
Et qui paye?
Qui paye,
c'est France Télévisions,
entre autres, mais il y a aussi l'UER et tous les pays qui chantent à l'Eurovision. Donc si on a de l'argent pour organiser une Coupe du Monde de foot, on a bien de l'argent pour organiser les Jeux Olympiques de la
D'autant
France.
Que ça n'est pas les mêmes budgets. Je ne sais pas ce que ça coûte une soirée comme celle-là, Laurent Marsic. Je ne sais pas si vous...
L'Eurovision a organisé 45 millions d'euros.
Ah, quand même. Et
oui,
qui paye?
Mais moi, j'avais... Alors, pour le coup, j'avais vu à Malmö, quand on était allé là-bas avec Amandine Bourgeois, tout ce que France Télévisions avait préparé, si jamais on gagnait. Et pour le coup, avec tous les sponsors qui existent sur l'Eurovision, plus les financements effectivement de l'UER, etc., ça revient au prix de ce qu'ils appellent un gros prime. Voilà. Ça coûte cher.
Bon. Donc on balaye aussi ce troisième argument. Donc les trois arguments contre Barba, donc elle sera élue. Puisqu'on a balayé les trois arguments. Merci.
Je suis impressionné. Hein.
Pourquoi vous êtes impressionné?
Tant de choses, tant de savoir sur l'Eurovision. Moi qui suis très néophyte en Eurovision.
J'essaye de travailler avant d'entrer dans un studio.
Vous avez trouvé très bon sur les clubs libertins, vous êtes très bon sur l'Eurovision aussi.
J'ai bien bossé.
C'est agréable. Je vous ai écouté ce matin, évidemment. Oui. En 77, vous n'étiez pas né d'ailleurs, non. La dernière fois. Il y a trois.
L'oiseau et l'enfant.
Voilà, comme un enfant aux yeux de lumière. Magnifique cette chanson.
Oui, il y a Yannick Noah, Roland Garros, il y a Bernard Hinault au Tour de France et il y a l'Eurovision. Je le fais chaque année de toute façon. C'est le mois de mai, c'est formidable pour ça.
Ça, c'est les trois trucs. Ah ouais. On n'a plus gagné le Tour de France depuis 85.
Bernard Hinault.
On n'a plus gagné Roland Garros depuis 83.
Yannick Noah.
Ça fera 40 ans l'année dans deux ans. Et on n'a plus gagné Marie-Myriam.
Qu'on invite une fois par an.
L'Eurovision depuis 77. Bon, merci d'abord d'être avec nous. Le programme ce soir?
Ce soir, on défait le monde formidable. On va parler de la chose la plus importante de la semaine, le retour de l'apéro. On a trouvé des historiens de l'apéro, des sociologues de l'apéro. On va parler très sérieusement de cette chose très importante pour la convivialité française, avec le retour en terrasse.
Ouais, tout est bon pour prendre, pour boire un coup.
Exactement. On parlera également de l'EPR, des nouvelles de l'EPR.
L'EPR, ce qu'on se met dans le corps.
Non, l'EPR Flamanville, vous savez, le truc qui devait être prêt depuis 2007. Là.
Ah oui, bah, qui coûte une blinde.
Voilà, là, ça coûte plus cher que l'Eurovision. On va vous donner des nouvelles également. Et puis, on vous parlera également du pass sanitaire. Et puis, il y aura un énorme cadeau à gagner. 2000 euros de bons d'achat. Dans les magasins de déco qui viennent de rouvrir. Écoute, 2000 euros.
Écoutez, ça va être formidable. Vous faites le téléachat, c'est bien.
Et M6 Boutique.
Merci.
Vous connaissiez Martial Liu? chef du service éco d'RTL.
Ah, pourquoi vous en parlez?
Bah, parce que vous connaissez sa chanson préférée de l'Eurovision?
Non.
Je l'avais. Amir! Formidable, Amir!
Ça, c'est Amir.
Il était favori en 2014, Amir.
Amir, bah, il a terminé 6e. Il a terminé 6e.
C'est en
2016, Amir. En 2014, c'était Twin Twin qui chantait Moustache. Mais écoutez, il y a des noms, il y a des gens complètement disparus. Jean Gabilou, par exemple, en 81, avec Uma Naom. Alors ça m'a échappé, Jean Gabilou. Anne-Marie David, Joël Prévost en 78, Catherine Ferry. Alors Joël Ursule, en revanche, en 1990, White and Black Blues. Ça, c'est bien. Ah, bien sûr.
Mais ça avait fait un tube, hein.
Bah, évidemment.
Mais elle avait chanté ça à l'Eurovision.
Bien sûr.
Mais ça n'avait pas gagné, ça.
Non. Deuxième. Vous avez Nina Morato qui avait Je suis un vrai garçon en 94. Mais il y a des gens effectivement qui ont fait un petit tour et puis s'en vont. Hélas, notamment je voudrais bien retrouver Jean Gabilou en 80. Ça c'est quoi?
C'est Amir, toujours j'ai cherché.
Ah, c'est Amir.
C'est l'hommage pour Martial Youh.
Bon. On va continuer de parler évidemment de l'Eurovision avec Barbara Pravi et puis on est avec Laurent Marsic. Je vais renvoyer l'ami Sini. Oui. 14h17, à tout de suite.
Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Ça c'est Bilal Hassani qui avait représenté la France également.
Mais vous êtes incollable.
Qui n'avait pas gagné. Nous sommes avec Christophe et toujours avec Laurent Marsic, notre consultant Eurovision. Bonjour Christophe.
Salut Pascal.
Bonjour. Alors, est-ce qu'on va gagner?
Bien sûr qu'on va gagner, moi j'y crois.
Ah oui, mais on y croit chaque année.
Ouais, mais écoutez, moi j'ai pris une claque monumentale devant ma télé quand je l'ai découverte fin janvier. Moi, à chaque fois que je l'entends chanter, le temps s'arrête. Elle m'a complètement touché, transpercé. Donc je suis devenu un gros fan. J'ai déjà acheté mes places pour son petit concert au Trianon en février l'année prochaine. J'attends son album avec impatience. Et même si elle ne gagne pas demain soir, je pense qu'elle a déjà gagné parce qu'elle va représenter dignement la France.
Mais c'est vrai que, je ne sais pas si une star est née, mais elle a un charisme, Laurent Marsic. Elle a une voix, elle a un visage, elle a une personnalité qui ont conquis. Disons-le, le public très rapidement.
Oui, elle a une vraie fraîcheur. C'est une jeune fille extrêmement volontaire, extrêmement dynamique. C'est un petit bout de femme merveilleux. Puis, pour le coup, vous avez raison quand vous parlez de la claque que vous avez prise devant la télé. Parce que quand elle chante sa chanson, elle le dit, elle est tellement habitée par sa chanson qu'elle en oublie tout ce qui s'est passé pendant la chanson, en fait. Voilà.
Christophe, vous allez regarder évidemment cette soirée.
Ah oui, évidemment, je serai devant mon poste en famille et on va supporter la petite Barbara. Bon, on ne pourra pas voter pour elle, mais on espère que toutes les personnes qui seront à leur poste dans les autres pays seront touchées comme on l'a été et puis pourront voter comme il faut, quoi.
Est-ce que c'est encore un rendez-vous important pour vous dans l'année, l'Eurovision? Chaque année, vous dites j'ai regardé en famille, c'est quelque chose, c'est un rendez-vous auquel vous tenez?
Ah oui, moi je suis un patriote. Moi, dès qu'il y a la France qui est en jeu... Je suis devant mon poste, que ce soit dans le sport ou dans autre chose, je supporte toujours la France. Et ouais, non, c'est une tradition, ouais, depuis que je suis tout petit avec mes parents, on regardait toujours l'Eurovision, donc on a perpétué la tradition, ouais.
C'est vrai, Laurent Marsic, c'est intéressant ce spectacle de l'Eurovision, parce qu'à un moment, donc c'était très à la mode dans les années 60-70, j'ai eu le sentiment que dans les années 80-90, c'était moins à la mode et c'était même un peu ringard. Et puis. C'est revenu vraiment un événement très important depuis, alors je ne sais pas si c'est 15 ans ou...
Depuis Amir. Depuis Amir, depuis que France 2 a récupéré ça sur son antenne, ils ont vraiment pris ça très très au sérieux. Il y a eu une vraie bascule chez nous en France au moment d'Amir, c'est-à-dire qu'on était moins...
C'est quelle année Amir?
Amir, on est en 2016.
Oui, je l'ai dit tout à l'heure, 2016. Alors oui, c'est voilà. Même plus récent que je disais 15 ans, c'est 5 ans pour vous.
C'était le concours qu'on aimait détester, en fait.
Ouais.
Et depuis Amir, c'est le concours qu'on adorerait gagner.
Voilà. Et c'est un succès à chaque fois en termes de télévision?
En termes d'audience, oui, ça correspondait à l'époque où c'était sur France 3, ça correspondait aux plus grosses audiences. Sur France 2 aussi, ça fait partie des grosses audiences, évidemment.
Donc ça fait combien d'audience? Ça va faire 10 millions de personnes, peut-être?
Non, non, non.
Moins que ça, 5, 6, 7?
On est plus sur du 4-5, oui.
À 4-5. Bon, ben écoutez, merci beaucoup, Christophe. Vous pouvez la chanter, cette chanson, pour terminer? Quelques notes de musique, dans quelques voix, peut-être?
chanter, non, mais je peux vous la jouer au piano si vous voulez. Parce que justement, moi j'ai tellement été touché par Barbara que du coup j'ai même composé un morceau pour elle, pour tout vous dire.
Ah bah écoutez, si votre piano est tout près de vous, pourquoi pas? Et quelques notes de musique, ça peut nous faire plaisir.
Ah bah, vous me prenez un peu de cours, mais ouais, donc je voulais quand même passer un message parce que j'arrive pas à envoyer un petit message privé à Barbara Pravi. Donc si un jour elle cherche un morceau, j'en ai un tout près pour elle.
Bah écoutez, vous êtes aussi compositeur. Merci beaucoup Christophe. Et effectivement, on l'écoute, tiens, Barbara Pravi, puisque vous êtes peut-être. En tout cas, je suis rentré à RTL ce matin, il y avait beaucoup de gens qui chantaient ça. Et je crois que c'est Jacques Esnou qui disait c'est entêtant. Et c'est vrai que.
C'est ça qui fonctionne à l'Eurovision, ouais. C'est quand on commence à retenir le refrain et qu'on sifflote, ça veut dire que c'est une bonne chanson. Ouais.
Et ce matin, dans les couloirs, quelques personnes chantaient cette chanson. Laurent Tessier, notamment, qui arrive. C'est le débrief. Il est 14h23.
Je vous en supplie.
C'est le débrief, le dernier de la semaine.
Ça me sauvera peut-être pas, mais faire sans vous, je sais pas comment.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier.
C'est le chiffre qui vous a fait réagir au standard. 67% des Français sont favorables au maintien de l'obligation du port du masque en extérieur. Résultat de notre baromètre BVA pour RTL et Orange. Anne en fait partie.
Moi, j'ai aucune difficulté à porter mon masque dès que je me trouve dehors et ça me rassure. La majorité des Français aujourd'hui sont rassurés de porter leur masque. En France, si on ne met pas des obligations, on ne suit pas.
Mais Charles ne comprend absolument pas cette histoire de masque en extérieur. Bah oui, pour lui, se balader avec un masque dehors, c'est non.
Au secours, dans quelle société on arrive? C'est juste inconcevable. Le masque, oui, mais pour protéger les autres de ses propres projections, ou quand on est soi-même malade. Mais le masque tout le temps, mais on plaisante.
Allez, c'est le moment de faire une longue pause musicale.
On écoute Youssoupha, c'est un genre différent, c'est du rap.
Mais oui, la chanson officielle de l'équipe de France de football pour l'Euro.
Écris mon nom en bleu, crie mon nom en bleu.
Un chanteur, Caprician.
Moi, je pense que le rap, c'est un art engagé.
Et puis, demain soir, l'Eurovision, la question qui revient chaque année, la France peut-elle gagner le concours?
Voilà.
Avec cette chanson de Barbara Pravi, peut-elle enfin succéder à Marie Myriam et notre dernière victoire en 1977? On y croit, non, Pascal?
Je trouve qu'on s'enflamme beaucoup. Visiblement, elle a déjà gagné avant d'avoir...
Comme toujours.
Bon, je crains le pire.
Ouais, vous avez raison, parce que souvent, depuis quelques années...
C'est vraiment la caca, la cata,
C'est la catastrophe. Mais allez, s'il vous plaît, ami Pascal, restons positifs sur la grande victoire.
Je la sens.
Et oui, on aurait peut-être dû vous envoyer à Rotterdam, Pascal, pour l'Eurovision. Vous auriez eu vos chances.
Je reviens... te chercher.
Ouais.
Que tu m'attendais.
Ouais.
Aïe, 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 c'est vrai que ça rentre dans la tête. Hein. On en veut encore plus, Greg.
Je savais. Ouais.
Ah, c'est beau. En tout cas, vous êtes au top sur l'Eurovision, n'est-ce pas, Cyprien Sénéchal?
Vous avez trouvé très bon sur les clubs libertins, vous êtes très bon sur l'Eurovision aussi. J'ai bien bossé.
Allez, le débrief pour cette semaine, c'est terminé. Que dire de plus?
Et Christophe, qu'on annonçait avec son piano, c'était notre dernier auditeur il y a une seconde. Je crois qu'il s'est rapproché du piano. Est-ce que vous pouvez accompagner en musique, Christophe, si vous êtes prêt du piano?
Oula, excusez-moi.
Non, mais c'est pas mal, c'est pas mal. L'idée est là et l'esprit est là, surtout. Merci Christophe, et on lui envoie des...
C'était l'émotion.
Voilà, on lui envoie des tonnes de bises à Barbara Pravi, on la soutient, on espère qu'elle va gagner, parce qu'elle est belle, parce qu'elle est jeune, parce que la chanson est réussie, parce qu'elle est bien écrite, parce qu'elle a une voix reconnaissable. Vraiment, c'est une belle artiste. Merci Laurent Marsic.
Plaisir.
Ah, j'espère vraiment que...
Qu'on savourera le champagne.
Ah. La malédiction de l'Eurovision va tomber. Et puis on se donne rendez-vous lundi. De toute façon, on fera un débrief, quoi qu'il arrive, lundi.
Tous les jours.
Flavie, oui, mais on fera un débrief aussi de la soirée de l'Eurovision. Flavie, dans une seconde, Flavie Flamand.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur